Game Radio. Radio.
Gogopex.
Ouais.
Jarel.
Ouais.
Maxou.
Présent.
NHK. Ah, Nico.
Ouais.
Ah, ouais, bah, c'est magique.
Ah, non,
alors là, ça c'est magique.
Ah non, mais je te promets. On m'a coupé internet, je suis chez ma voisine.
Le mec, il a frappé chez la voisine qu'il connaît pas du tout en lui disant ouvrez, j'ai une émission sur Game Radio. Ouvrez. Ouais, où est votre ordinateur? Attends, il a branché son micro.
Défoncé
la voisine. Bon, elle saigne un peu. Elle saigne un peu, mais ça va. On va y arriver. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Game Radio, bienvenue dans ce nouvel épisode du Flashback, un podcast qui, vous le savez maintenant, vous propose une sorte de rétrospective de l'actu jeux vidéo de la semaine. Et forcément le vendredi, c'est la fin de la semaine, et si vous vous souvenez du Flashback de la semaine dernière, c'était copieux. Ça risque d'être pire aujourd'hui, d'autant plus qu'on est encore plus nombreux. Il y a quasiment toute l'équipe de Game Radio au complet autour de Skype, puisque c'est Skype qui héberge nos discussions. Aujourd'hui, nous sommes avec Giant Jones. Salut Giant.
Salut.
Je crois qu'il y a aussi Gogopex.
Oui, yo.
Ouais, il y a Jarel. Jarel qui est là.
Oui, je suis là.
Maxou.
Yo.
Et Nicolas, alias
Salut.
Nico. Salut Nico. Nico qui est, alors là c'est important, on va le signaler, qui est chez sa voisine. Il a frappé au carreau. Est-ce que je peux enregistrer chez vous? J'ai une émission là tout de suite sur Game Radio. Et sa voisine lui a ouvert la porte, lui a laissé les clés. Et donc il
je
est...
Je lui en remercie d'ailleurs.
Voilà, on remercie la voisine de Nico, très chaleureusement.
Merci voisine de Nico. Oh oui, merci, je voudrais bien la remercier chaleureusement. Allez, on va y
aller. Donc j'étais en train de vous expliquer donc que ce Flashback, c'est une rétrospective de l'actu jeu vidéo de la semaine. Donc la rédaction revient sur les infos qui ont fait la une des flashs depuis lundi. Et on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, avec justement lundi midi, j'annonçais que la PSP Go recevait un accueil pas terrible, hein, notamment de la part de Micromania, puisque le directeur ou le président directeur général de Micromania parlait d'un plantage annoncé. Et Sony avait répondu à ces attaques, entre guillemets, en disant que Micromania, de toute façon, ne soutenait pas la console, boycottait la console. Donc on va revenir sur ça.
On commencera ce petit tour d'horizon de l'actu jeu vidéo de la matinée avec la PSP Go et le manque de soutien des revendeurs spécialisés à son encontre. Outre le manque flagrant de visibilité et de mise en avant commerciale de la portable de la part de plusieurs enseignes.
Voilà, donc la PSP Go qui a un petit peu de mal à faire son lancement comme on aurait pu penser qu'elle le ferait, c'est-à-dire qu'en fait l'accueil est pas terrible. Autant les magasins pour la plupart vont la distribuer, mais... pas la soutenir. Je vais demander à chacun peut-être de s'exprimer là-dessus. Moi, j'ai fait un sujet dans le podcast de lundi justement où j'ai appelé plusieurs boutiques. Donc Micromania, ils en ont. Score Game, ils en ont. Par contre, tout ce qui est Ultima, Dog Games, Diff Intel Micro et j'en oublie, Virtua, enfin toutes ces boutiques-là ne font pas la console, ils la boycottent carrément. Ils ont décidé que de toute façon, comme ils pouvaient pas se faire d'argent dessus, il y avait pas de raison qu'ils utilisent leur force de vente pour rien.
En fait, ils peuvent se faire de l'argent. Enfin, Sony a donné une autorisation de vendre la console plus cher qu'ils l'achètent. C'est une des seules consoles, puisque faut savoir que les magasins ne gagnent pas d'argent quand ils vendent une console. Ils en gagnent quasiment que sur l'occasion. Enfin, ça marche pas pareil.
Ah oui, apparemment, de ce qu'on sait, notamment sur la PSP, les magasins se font une marge, mais infime. C'est moins d'un euro. Je crois que c'est 50 centimes. D'euros.
La PSP Go, en fait, il la vendait au départ, je crois, c'est 239 euros, non? Je dis pas de bêtises, 229, quelque chose comme ça.
Si, ouais, c'est, ouais.
Maintenant, elle est passée à 200 euros. En fait, le fait qu'elle soit passée à 200 euros, c'est simplement que les revendeurs ont renoncé à leur marge pour vendre la console parce qu'elle se vendait pas, en fait. Et du coup, le fait que les plus gros magasins peuvent se permettre de faire ça, les petits magasins, eux, ils vont pas non seulement vendre la console sans se faire de marge, pour qu'en plus après ils vendent aucun jeu dessus.
Voilà, ouais, ça ils n'ont pas moyen de se faire du bénéfice. En fait, une fois qu'ils ont vendu la console, ils ont pas les clients reviendront pas acheter des jeux vu que c'est du virtuel, du dématérialisé. Ils font pas de bénéfice. Déjà qui, ouais, voilà, s'ils tirent 50 centimes sur la console et qu'en plus de ça ils vendent pas de jeux et que 5 ou 6 accessoires différents, c'est la mort. Ouais. Donc, c'est
même sans ça, est-ce qu'il y a vraiment des clients pour la PSB Go? parce que c'est vrai qu'elle semble tirer quand même pas mal de boulets pour pas vraiment beaucoup d'avantages, surtout que c'est à peu près la même physionomie, enfin le même support que la PSP 3000. Donc je vois pas que même avec le soutien des grandes enseignes, je la vois pas partie pour faire un véritable carton, quoi.
Bah, carrément, mais moi la question que je me pose, c'est bien le même PSN avec la PSP Go et la PSP 3000, 2000 et 1000. Donc, je vois pas en fait quel est l'intérêt d'avoir, si on peut télécharger des jeux en dématérialisé sur une console qui a un lecteur UMD, on peut pas.
D'accord, il me semble pas.
Si, on peut.
Alors, c'est complètement. Ah,
peut-être pas les minis.
Si on peut télécharger l'intégralité du PSN sur sa PSP 3000, il y a aucun intérêt à acheter une PSP Go. Je veux dire, à part à balancer du 30€ dans du virtuel.
Ouais, avoir une console plus légère.
En tout cas, ce qu'il fallait retenir de la news de lundi, c'est que, bon, savoir si elle va fonctionner ou pas, si elle va plaire au public, ça c'est une question. La question, c'était surtout de voir qu'en fait, elle ne plaisait pas aux revendeurs et aux distributeurs. C'était pas le genre de produit. C'est pas forcément que la PSP. Je crois que la PSP, c'est entre guillemets permet presque de tester ce qui pourrait se passer si demain on avait une Xbox dématérialisée avec que des jeux à télécharger par exemple et plus de boîtes et de jeux en boîte.
Ouais, mais de toute façon, j'y arriverai forcément un jour.
De toute façon, on va pas s'étendre plus longtemps sur le sujet parce qu'on va faire, j'ai déjà annoncé, mais on a pas eu l'occasion de l'enregistrer encore, un podcast consacré à ça. Consacré pas forcément à la PSP Go, mais en tout cas à ces formats digitalisés, ces téléchargements, l'avenir peut-être de tout ça, la dématérialisation, voilà. Donc on fera un podcast complet là-dessus prochainement, très très prochainement. D'ailleurs, je pense qu'on va pas en parler plus maintenant parce qu'on risque de faire ce podcast-là maintenant. On peut si vous voulez d'ailleurs. Non, on reste sur le flashback.
ça va être un peu long et ça va empiéter sur le flashback.
Ouais, donc on va rester sur le flashback. On va passer à l'info suivante qui était tombée dans la journée. Fable 3 allait utiliser Natal.
Peter Molineux, le boss du studio Lionhead, vient de confier que Fable 3 utilisera Natal, le futur périphérique de capture de mouvement de la 360.
Pourquoi ? Justement, ça, là, la question va se poser, c'est maintenant pourquoi faire ? Parce que quand on voit les possibilités de justement qu'offre Fable, on a peur que cela puisse peut-être dévier, on ne sait jamais.
C'est pas ça, c'est qu'en fait, on ne connaît pas encore réellement les possibilités que va offrir Natal. Donc
déjà
on va pas rattraper les ballons que va nous lancer le héros ou le chien, enfin tu vois, on sait pas.
Peut-être hein, pourquoi pas. On va lancer la balle au chien nous-mêmes.
Est-ce que ça va être
est-ce que ça sera un accessoire principal dont on se servira tout le temps ou ça sera un truc dont on se servira un peu comme le Nunchuk dans Wisport Resort quoi.
C'est ce qu'a dit en fait ce qu'a dit Peter Molineux pour le reciter, il a dit que le jeu serait jouable à la manette. Et il a pas dit que ce serait pas jouable sur Natal. C'est un truc en plus. C'est un accessoire qui prolonge, on va dire, la manette. C'est-à-dire que tu peux tenir ta manette et tu peux faire des trucs avec ta tête ou avec ta main et hop, tu reprends la manette. Enfin, ouais, c'est quelque chose de beaucoup plus naturel.
On peut tout imaginer. D'autant plus que Natal, au-delà du mouvement, tu vas nous le rappeler, Maxou, va permettre aussi de capter ou de capturer
ta voix, le visage,
les mimiques faciales.
Donc ton comportement, comment tu es aujourd'hui.
Ouais, l'idée, c'est que si t'as l'air énervé, le jeu le sent et peut retranscrire des événements en fonction de ça.
Si on va plus loin dans la réflexion...
Ça me rappelle un petit peu les fantasmes qui étaient générés justement avant la sortie de la Wii, où on s'imaginait un peu tout et n'importe quoi avec les possibilités, et puis finalement, à l'arrivée, on était un peu déçus quand même.
Ouais, c'est ça, t'as raison. Mais c'est vrai qu'on peut quand même fantasmer. On peut imaginer quand même que, enfin, en tout cas, l'idée de Fable au départ, c'est justement entre guillemets cette évolution du personnage entre le bien et le mal. Alors justement, peut-être que le fait que le logiciel que Natal puisse capturer. Qu'est-ce qu'il y a ? Je pars loin là ?
Non, mais j'imagine le délit de sale gueule. Tu sais, la caméra, elle prend le truc, fait oh toi, t'as une sale tronche, tu vas être méchante. Allez hop direct.
Non mais peut-être. Enfin, en tout cas, c'est ça. Peut-être que effectivement, dans le côté roleplay, ça peut être intéressant. C'est Cédric Bonnet que je salue de Geekink lors d'une émission plus ancienne qui nous avait dit ça. Effectivement, que lui, Natal l'avait bluffé et qu'il trouvait intéressant que ce périphérique soit utilisé pour ça, dans le côté roleplay. Le fait
ce qui est sympa, c'est qu'il y a, enfin, il y a d'immenses possibilités. Après, c'est pareil, c'est qu'est-ce qu'ils vont en faire, mais après les possibilités, tu peux totalement extrapoler toi en tant que joueur avec ton imagination débridée sur qu'est-ce que peut donner le Natal sur tel ou tel type de jeu.
Mais carrément, il n'y a pas de limitation
pour l'instant. Et Peter Molineux est quand même assez prolixe là-dedans, donc
qu'est-ce que ça peut donner? au Prolix.
Non, mais c'est pas parce qu'il y a un X que faut que tu t'excites
non,
comme ça, Max.
Non, mais ça me faisait plutôt penser aux croquettes, Frolic. Allez.
D'accord. En tout cas, voilà, Fable 3 utilisera Natal. Comment, pourquoi, on ne sait pas encore, mais effectivement, une fois de plus, Peter Molineux a réussi à attiser non seulement notre curiosité, puis à nous faire rêver ou au contraire fantasmer. Enfin, on verra bien. On verra bien ce qui se passera là dans quelques mois maintenant, parce que 2010 approche, le début de l'année approche à grands pas. Et je crois que c'est ça, hein, c'est 2010, Natal.
Oui, tout à fait. Oui.
Ouais, c'est
mi-2010.
C'est pas plutôt printemps, mars?
Ouais, il me semblait que c'était printemps, non?
Il y a des rumeurs qui disent que ça, les grosses sorties vont aller avec l'E3 en fait, le prochain E3.
Ouais, ça me paraît déjà plus probable.
Ouais, donc en fait, on va nous annoncer des report forcément parce
voilà.
que
voilà mais oui mais enfin c'est ça c'est une stratégie de communication hein. si tu as remarqué la plupart des studios reportent toujours ne serait-ce que de 2 jours leur jeu parce que bah tout simplement tous les sites du monde vont newser pour dire que tel jeu sera reporté et donc ça fait parler du jeu.
D'accord, voilà. Bah on va essayer de faire parler un peu de ton émission. Tiens, j'en profite. On vous a parlé de Versus la semaine dernière en vous disant voilà, fin de semaine prochaine, il y a un Versus sur Game Radio. On vous en dit pas plus, c'est une émission extraordinaire, vous allez voir. Et ben voilà, on le reporte un petit peu. On le reporte à lundi.
C'est un euphémisme.
Ouais, on va voir. Mais en tout cas, on la reporte à la semaine prochaine, début de semaine prochaine, elle devrait arriver, peut-être avant si j'ai un peu plus voilà,
sur bon, si bref.
Cœur m'en dit. Donc Versus arrive, hein. Vous pouvez veiller sur Game Radio, ça va pas tarder.
Notez sur vos agendas l'émission la plus incroyable on the World Wide arrive.
Ça, et ça c'est un vrai buzz avec la vraie déception à l'arrivée, vous allez voir.
Ouais, ça.
Moi je veux pas. Ça fait très Julien C ce que vous faites là. Ça va être extraordinaire.
Ah non mais ça va pas être extraordinaire, ça va être incroyablissime.
Bon, alors on passe à l'incroyable journée de mardi avec notamment le fait que FIFA qui était sorti le vendredi précédent cartonnait carrément. En fait, le jeu se vend énormément. On avait déjà des premiers chiffres. C'était l'Angleterre, je sais plus, j'ai pas noté malheureusement les chiffres en question. Si quelqu'un les a, merci. En tout
1,7
cas,
1,7 million.
Non, ça c'est dans le monde et c'est arrivé un peu plus tard. Écoutez, on garde FIFA pour mercredi alors. C'est un peu le bordel. Non, parce que j'ai reparlé de FIFA le lendemain parce qu'effectivement FIFA 10 s'est vendu dans le monde à hauteur de 1,7 million et c'est un très très beau score apparemment, un beau chiffre de vente. Donc on va passer plutôt à l'info de mardi soir, la PSP qui était vendue un peu moins cher en Angleterre. Justement, chez certains revendeurs.
La PSP Go fait de nouveau parler d'elle. À peine sortie, voilà qu'en Angleterre, la console baisse de prix. Le résultat des ventes de la PSP Go est pourtant très positif là-bas.
On parle à nouveau de la PSP.
Je sais pas comment analyser ça.
Ils la vendent pas, ils la bradent quoi. Ils la vendent moins cher.
Alors, il faut savoir une chose, c'est qu'en Angleterre, elle marche très très bien. Apparemment, en Angleterre, elle se vend très très bien.
D'accord.
La baisse de prix, en fait, c'est ce que j'ai expliqué juste tout à l'heure. En fait, j'en ai parlé tout de suite. C'est juste que, en fait, pour encourager les revendeurs à vendre la PSP Go, ils ont autorisé à ce que les revendeurs se fassent une marge de 20-30 €. Et en fait, certains vendeurs ont renoncé à cette marge pour baisser le prix de la console. Et du coup, le problème, c'est que beaucoup de magasins ne peuvent pas se permettre de renoncer à cette marge et du coup ne proposent plus la console.
D'accord. Bon,
parce
que
voilà. S'il renonce.
Oui, comme tu nous l'avais déjà expliqué, et qu'en fait on l'avait très bien compris, on va pas on va pas revenir dessus. En fait, en gros, mardi c'était une journée pas très intéressante finalement. Donc on va passer à la journée de mercredi. Ça ira plus vite. Non, mais voilà, oui, on a bien compris. Donc la PSP moins chère en Angleterre. Tu viens de nous expliquer pourquoi. Tu l'avais déjà fait juste avant. On va passer la journée de mercredi. Mercredi, Sony. On apprenait que Sony était poursuivi en justice par un joueur américain qui se plaignait du fait que le firmware 3.0 avait bousillé sa console.
Sony, poursuivi en justice par un joueur américain. Le firmware 3.0 serait en effet la cause de nombreux problèmes.
Alors première question, est-ce que vous étiez au courant de ce problème? Moi je savais pas que le firmware 3.0 avait déclenché pas mal de pannes chez pas mal de monde.
C'est la mode en ce moment en tout cas. Parce
oui,
qu'entre Nintendo et
c'est vrai qu'on parlait et de la Wii la semaine dernière, ouais, avec effectivement une mise à jour 4.2 ou 4.3, je sais plus qui avait.
Moi je sais pas
la semaine prochaine,
mais là demain c'est SAV pour moi pour ma Play 3. Elle est complètement, je sais pas ce qu'elle a en ce moment. Déjà les boutons tactiles, alors ça me le fait depuis un moment. Les boutons tactiles ne marchent plus. Et là effectivement depuis cette mise à jour, je peux pas me connecter au store. Elle crache très souvent.
Ah, t'es en train de nous dire qu'on va devoir faire une nouvelle émission sur les pannes de consoles très prochainement.
Non mais attends, parce que au prochain flashback on va annoncer que la 360 a fait une mise à jour qui a fait planter toutes les 360.
Il y a vraiment un gros problème entre les différentes versions de console. console, il y a vraiment un gros problème à chaque fois qu'on dirait qu'ils changent les mises à jour. Alors, je sais pas s'ils font des tests avant ou pas. Comment se passe la mise en ligne de ces mises à jour? Mais c'est curieux, quoi. C'est pas la première fois, ça sera pas la dernière, sûrement.
Question peut-être intéressante, je ne sais pas. Est-ce que ça bug aussi pour les PS3 Slim ou est-ce que c'est que les PS3 Fat?
Alors moi, j'ai pas le détail. En tout cas, ce qui voilà, l'info en tout cas, c'était que ce jeune américain avait carrément porté plainte contre Sony et apparemment il allait arriver à ses fins parce que je crois que lui il avait dû envoyer sa console en réparation, ça lui avait coûté 150 €. Conseil aux auditeurs qui ont une panne suite à une mise à jour, de pas hésiter à porter plainte finalement. Non, je sais pas si ça peut se faire. C'est peut-être pas un très bon conseil.
Attaquer en justice, ça marche très bien aux États-Unis. Je suis pas sûr que ça fonctionne aussi bien chez nous.
Le problème en fait, c'est que c'est pour attaquer quelqu'un en justice en France, faut de l'argent. À moins que tu sois sûr et certain de gagner, et dans ces cas-là, les avocats en fait vont prendre leur commission sur la peine de l'autre. Si t'es pas sûr de gagner, tu peux pas vraiment porter plainte en France, faut avoir de l'argent.
Ok, très bien. Bon, de toute façon, c'était pas forcément très intéressant, c'était plutôt amusant de voir qu'un joueur s'était attaqué, entre guillemets, au géant Sony comme ça.
Mais il me semble qu'il y en avait eu un qui avait fait ça aussi, pareil aux États-Unis, mais c'est parce que on avait refusé à lui réparer sa console, mais elle était dans un état, ça a été rempli de poussière, totalement dégueulasse et autres. Le gars, là, par contre, il était quasiment inconscient d'attaquer en justice Sony parce que j'imagine même pas l'état de son appart quand tu voyais l'état de sa console, hein. C'était impressionnant. Mais il y avait déjà eu quelques cas, on va pas dire similaires parce que là, ça porte vraiment sur une mise à jour imposé par Sony, mais il y a eu quelques cas comme ça où il y a eu des attaques en justice répétées et notamment sur Xbox aussi sur le manque de fiabilité.
Très bien, merci Jarel. On va passer à la suite. On passe donc à mercredi soir et FIFA 10. On y revient, ça y est. Effectivement, tu le disais tout à l'heure, Giant, FIFA 10 vendu à 1,7 million d'exemplaires dans le monde.
FIFA 10, une nouvelle fois, la simulation de football d'Electronic Arts Sport se vend comme des petits pains. Le jeu vient en effet de dépasser les 1,7 million de ventes.
Donc voilà, beau score hein, pour FIFA, 1,7 million d'exemplaires, c'est pas mal.
Record battu par rapport au précédent.
Ouais, tout à fait, c'est un beau chiffre. Alors, ce FIFA, est-ce que... Alors, on a fait un test hein, sur Game Radio. Corello, que je remercie, a écrit, puisque lui, c'est un vrai fou de FIFA. Il y joue énormément, donc c'est un vrai spécialiste. Moi, je suis moins spécialiste, ça c'est clair. Je crois que Jarel, par contre, tu touches ta bille en jeu de foot. Est-ce que ce FIFA 10, selon vous, selon toi, Jarel peut-être, mérite le succès qu'il a aujourd'hui? Est-ce que, moi, de ce que j'ai cru comprendre, c'était pas non plus une véritable révolution?
Non, parce que de toute façon, à chaque nouvelle édition, il y a énormément d'erreurs qui sont corrigées, mais t'as des nouveaux problèmes qui apparaissent. FIFA 10 n'échappe pas à la règle. Tu as vraiment une marge, enfin, un changement énorme qui a été fait entre FIFA 09 et FIFA 10 en termes de jouabilité. C'est le jour et la nuit, quoi. Hein. C'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus nerveux, c'est beaucoup plus agréable à jouer. Mais par contre, il y a quelques problèmes qui subsistent, voire quelques problèmes qui sont apparus. Moi, je mettrai juste le doigt sur un qui m'a particulièrement irrité. C'est que maintenant, pour jouer en ligne, en club, on est obligé de prendre des joueurs qu'on a nous-mêmes créés. Le petit bémol, c'est que il y a la possibilité d'acheter sur le store Electronic Arts la possibilité de doper ses joueurs pendant 5-6 matchs.
Ah bon?
Et je trouve
ça. Tu peux avoir un milieu de terrain bionique quoi pendant 5 matchs. C'est n'importe quoi.
Ah, en fait, tu peux acheter quoi? De la potion magique des Gaulois en fait, un petit peu, c'est ça?
Tu achètes la triche. C'est la triche achetable via Electronic Arts.
Au final, c'est comme d'hab, toujours ceux qui payent auront toujours plus de privilèges que ceux qui ne payent pas.
Ouais, mais là, quand même,
c'est carrément suggéré, c'est de la dope, quoi.
Ouais, c'est de la dope. En fait, voilà, t'es en train de nous dire que le doping arrive dans le jeu vidéo, quoi.
Voilà, c'est ça, exactement. Et si t'as de l'argent, tu payes et t'es dopé, quasiment tout le temps. C'est vrai que ça pose un véritable problème, parce que certes, on retrouvait sur FIFA 09 pas mal de tricheurs, déjà, à la base. Mais outre que le fait que Electronic Arts n'ait pas fait grand chose contre ces tricheurs que tu retrouves,
c'est un petit peu comme s'ils avaient résolu ce problème en officialisant quelque part ça, la triche.
Quasiment, mais je trouve ça totalement, enfin déjà que c'est totalement inintéressant, un, de tricher en ligne, et deux, de jouer contre des tricheurs.
Oui, mais alors en ligne,
jeu de foot en plus, non, franchement.
Ouais, en plus
c'est complètement con, c'est un mieux réalisme.
Justement, en ligne, est-ce qu'on peut dissocier justement les matchs avec ou sans, avec doping, sans doping? Non.
Logiquement non, sinon ça sert plus à rien de se doper si tu joues contre d'autres joueurs dopés.
Ouais, tu as raison. Alors,
C'est, bah, c'est déjà un peu le problème de tous les jeux de sport finalement quand tu joues en réseau. Je pense par exemple au jeu de tennis où les tricheurs s'amusent à gonfler des performances uniquement sur le service et le tir. Et
c'est carrément ça. Mais
ils vont booster uniquement certaines aptitudes pour être certain de marquer des buts. Et là, finalement, au lieu de passer du temps à configurer ces joueurs faits pour la triche, finalement, ils ont juste à payer. C'est un raccourci pour avoir encore plus de tricheurs sur le live. Moi, je pense que c'est pas très bon parce que finalement, ça va dégoûter les joueurs peut-être que ça va pas leur donner envie d'y retourner.
Moi, ça me fait penser aussi à ces jeux, ces MMORPG free to play où en fait on peut acheter des potions qui te boostent ton personnage pendant un temps donné. On se retrouve sur ce schéma-là, ce schéma commercial.
Le free to play, tu payes pas ton jeu.
Oui, mais tu peux tu peux très bien te passer des potions, mais c'est où, par exemple, acheter un pet ou quelque chose qui va te suivre sur une partie. À la limite, pourquoi pas. Mais là, dans un jeu comme celui-ci, je trouve que c'est presque, je sais pas le terme me vient indécent. Je sais pas ce qu'on peut.
Idiot. Et on peut faire le parallèle avec ce que proposait Namco et avec Tales of où tu achetais des points d'expérience. Enfin, c'est foutre en l'air son jeu. Enfin, c'est pas compliqué.
On perd l'esprit du jeu, tout simplement.
Et finalement, dans les jeux de caisse où on peut parfois acheter des voitures qui sont surpuissantes aussi, c'est un peu ça. C'est-à-dire que la personne qui a les moyens va pouvoir s'équiper, se suréquiper par rapport à d'autres.
Ouais, mais je veux dire, quand tu t'achètes une Lamborghini, c'est pas qu'une question de moyens. Tu vas pas faire une course contre des Renault 5, quoi.
Le vice, c'est que dans le cas de FIFA, c'est que c'est un truc temporaire, si j'ai bien compris. 5-6 matchs.
Voilà, c'est 5 matchs.
Ouais. Donc de toute façon, tu repayes si tu vas à nouveau doper tes joueurs, quoi.
C'est quoi le prix par curiosité?
80 points, moins d'un euro. Donc en plus, les personnes peuvent le faire ad vitam aeternam, quoi. Enfin,
en plus, c'est pas très cher. J'imagine que dès que tu vas vouloir faire un tournoi live, les mecs vont utiliser cette méthode.
Ça ne peut que pousser les gens à consommer ce genre de choses tout le temps.
Carrément, franchement, tu fais 5 matchs par jour, c'est comme si tu payais un abonnement, quoi.
J'ai envie de dire qu'ils ont tout compris.
Ouais, faut voir.
Voilà, malheureusement.
À côté de ça, d'un point de vue financier, je suis assez d'accord avec toi. D'un point de vue financier, c'est sûr que ça va leur rapporter, mais quantité énorme d'argent.
Ouais, enfin, si on fait 1,7 million fois 80 centimes d'euros, c'est ça? Ça fait combien?
C'est pas vraiment équivalent comme ça, mais bon, c'est clair que ça va leur rapporter.
Rien que fois 1 euro, ça leur rapporte 1,7 million. Si tout le monde achète un pack.
Une fois.
Ouais, non, mais c'est sûr que ça va leur rapporter des sous, là. La question ne se pose pas. Maintenant, je pense que la communauté des joueurs vraiment hardcore, enfin, les fans de compétition vont être un peu déçus, quoi. Parce que justement, ils vont se sentir un peu floudés parce que.
Après, pour la
ils vont se retrouver face à des gars ou peut-être qu'ils vont être plus forts qu'eux. Et enfin bon, c'est le problème. Finalement, ce que je disais, c'est un peu le problème sur tous les jeux de sport en réseau.
Ouais, enfin, tu prends même certains FPS qui te proposent d'acheter ensuite des compléments d'équipement, des flingues, des choses comme ça qui sont un peu plus puissants que les autres. Finalement, c'est un peu ça. Là, moi, ce qui me gêne le plus, c'est que ce soit temporaire. C'est qu'une fois que tu l'as acheté, enfin bon.
Ouais, c'est ni plus ni moins ce que doper ses joueurs, quoi. Franchement.
Ouais, voilà.
Mais pour revenir au sujet principal, quand même de cette news, FIFA mérite son succès. Ça reste le meilleur jeu de foot actuellement.
Malgré le fait
là t'as 15 mecs qui sont en train de te repérer et qui sont fans de PES.
Non, mais c'est pas très grave, il y en a plus beaucoup.
Ils ne sont que 15.
Ils sont que 15, exactement.
Bon, allez, on va passer à la suite de cette émission. On passe donc au lendemain, jeudi. Et jeudi midi, j'annonçais que Ryo Hazuki allait faire son grand retour dans un jeu vidéo.
Ryo Hazuki, le héros du jeu Shenmue, est enfin de retour. Si on est loin de pouvoir goûter aux joies d'un nouveau volet de la saga Shenmue, sachez que Ryo sera un des personnages jouables du jeu nommé Sonic and Sega All-Stars Racing.
Alors, Ryo Hazuki, qui ne connaît pas Ryo Hazuki?
Levez le micro.
Ryo Hazuki, c'est le fameux héros de Shenmue.
Tout à fait. Et alors, qui revient pas dans un nouveau Shenmue? Dommage. Parce qu'une suite avait été annoncée, si je me trompe pas. Hein. On avait eu donc le 1, le 2, et je crois que...
On attend le 3, ouais, c'est une œuvre inachevée.
Voilà, on attend le 3 depuis
plusieurs années. Il y avait même un Shenmue Online qui avait été annoncé à un moment. Je sais pas s'il est sorti ou pas, mais on avait eu un trailer.
Ryo Hazuki revient dans un jeu qui n'a rien à voir, en fait. Il fait quand même partie des personnages emblématiques de chez Sega, au même titre que la petite danseuse de... Vous allez m'aider, parce que j'ai oublié le nom, mince.
Je pensais à Sonic, moi, mais
ouais, Sonic, non, mais Sonic, c'est une méga star. Ouais, que Sonic, que Tails,
oulala,
voilà, merci, que oulala. Et donc il va arriver dans un jeu de course à la Mario Kart qui va s'appeler Sonic and Sega All-Star Racing, voilà.
Moins donc, facile à retenir que Mario Kart.
Voilà, c'est ouais. Ryo Hazuki aura la possibilité d'utiliser sa moto. Je sais pas si vous vous souvenez, il avait une moto.
espèce de kitsch,
ouais, espèce d'Harley Honda, une Harley Davidson, ouais. Ouais, tu vois.
Non, une Honda, ouais.
Une Harley Honda.
Non, mais la Honda, mais façon Harley, la 125, tu sais, le truc.
Ouais, d'accord, d'accord, style. D'accord.
Et sinon, l'autre véhicule qu'il pourrait utiliser dans le jeu, c'est le monte-charge. Souvenez-vous dans, bah oui, souvenez-vous dans Shenmue, à un moment, on pouvait travailler. Il fallait travailler d'ailleurs pour gagner de l'argent tous les jours, quotidiennement. Et donc, il travaillait sur le port et il avait un monte-charge. Il devait emmener des caisses d'un point A à un point B. Et on faisait ça pendant des heures. On trouvait ça génial. C'était super réaliste. Mais c'est vrai que c'était très bien.
T'avais même déjà des courses de monte-charge. Hein.
Ah oui, il y avait des courses de monte-charge. C'est vrai. Maintenant que tu dis, le soir.
Ils inventent rien, hein, et ils refont.
Effectivement.
Ils reprennent une partie de Shenmue d'un certain côté. Je trouve le clin d'œil assez intéressant. Moi ouais, j'aime bien. Non, personnellement,
oui, c'est clair.
J'ai adoré Shenmue 1 et 2. Et je trouve ce petit clin d'œil sympathique. Comme quoi, Sega n'oublie pas cette licence.
Mais ce que je comprends pas, c'est que s'ils savent la puissance de cette licence, mais pourquoi ils font pas le troisième?
Jarel, est-ce que tu peux. Jarel, est-ce que tu peux nous rappeler, Jarel, le nom du monsieur qui est derrière tout ça, celui qui avait fait Angon et
Yu Suzuki.
Yu Suzuki, merci, j'arrivais pas à me le remettre
merci en tête. Dieu.
Et justement, il y a Yakuza 4 qui va sortir au Japon, vu que cette grande série qui fait un carton au Japon peine à trouver le chemin de l'Europe et des États-Unis. Il a du mal à s'imposer en tout cas là-bas. Et dans Yakuza 4, on va retrouver des éléments, des décors et voir des petits clins d'œil aux personnages de Shenmue.
Alors, est-ce que tu as des nouvelles de Yu Suzuki? Comment va-t-il?
Eh ben, sachant qu'il y avait le responsable des Sega USA qui savait même pas que ce monsieur existait, je pense que Yu Suzuki se porte très bien, mais pour l'instant, il est un peu seul.
D'accord. Donc voilà, il a été un peu oublié par Sega. Donc forcément, comme c'est lui le père des deux Shenmue. Pardon, des deux Shenmue.
Ouais, ça peut être facile de faire la troisième partie. Ouais.
Un des
il y aura jamais de troisième Shenmue, hein, je pense.
Parce que sois pas défaitiste comme ça. Il y a des.
Qu'est-ce qui avait fait le succès de Shenmue? Moi, dans mon souvenir, pour y avoir joué, c'était effectivement un scénario exceptionnel. Le fait qu'on voyageait vraiment, on a vraiment l'impression de d'être le personnage, le héros. Et il y avait ce mélange entre la réalité, c'est-à-dire le quotidien, et vivre des aventures un peu exceptionnelles, c'était un peu ça la force de Shenmue.
Ah ben c'était un mélange des genres et c'est vrai que c'était une ambiance qui te happait littéralement et qui te lâchait qu'à la fin du jeu. Et c'est devenu un jeu culte pour beaucoup de personnes et c'est largement compréhensible tant qu'à l'époque il s'imposait tant soit techniquement que ludiquement quoi. C'était
c'est ce que j'allais dire.
C'était vraiment un chef-d'œuvre. Hein.
Voilà, il était superbe, une musique inoubliable, un thème musical.
Ce que tu pourrais même faire, c'est au montage, c'est carrément faire écouter la musique.
Moi je vais vous la chanter si vous voulez. Ma voix cassée. Non, ça va, je vais vous éviter ça. Allez, bon,
t'as déjà fait Pikachu au dernier.
Ah oui, bah oui, j'ai fait Pikachu la dernière fois, alors je vais vous chanter Shenmue.
T'es pas un Shenmue près.
Merci pour votre soutien. Bon, alors, ok. Allez, on passe à jeudi. On est toujours sur jeudi. Forza 3 faisait un peu parler de lui. En fait, les premiers tests tombaient un peu partout sur la plupart des sites. D'ailleurs, tout est tombé la même journée. À pas croire qu'il fallait qu'il y ait une levée d'ordre, que Microsoft autorise la diffusion des tests. Je sais pas ce qui s'est passé. Énormément de sites ont diffusé leurs tests et le jeu reçoit un accueil très très positif.
Bah oui, c'est un embargo. Hein.
Forza Motorsport 3, les premiers tests sont en train de tomber et il se trouve que la simulation de conduite semble recevoir un accueil plutôt positif de la part de la presse spécialisée.
Alors, effectivement, jeudi, quasiment tous les tests sont tombés concernant Forza Motorsport 3. Et tu me disais, selon toi, Maxou, il y avait eu une espèce d'embargo. Enfin, je sais pas si le terme est bon.
Ah, mais c'est pas, si, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand tu sors de la présentation d'un jeu ou quand tu reçois le jeu d'un éditeur, ils te disent, attention, tu dois signer une feuille qui dit que tu ne dois rien publier avant tel jour, telle heure.
D'accord.
Et donc, bien sûr, tous les sites professionnels, ils diffusent à tel jour, telle heure, à la minute près, ils déconnent pas là-dessus.
Donc, on s'est retrouvé, mais pas seulement les sites professionnels, on s'est retrouvé avec tous les sites de fans, Xbox, tous les sites, bon, effectivement, jeuxvideo.com et les autres. Dans la journée, paf, 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 tous les tests sont tombés, on en comptait une quinzaine, je crois, en fin de journée. Ce qui est intéressant, c'est que les notes sont très bonnes. À part jeuxvideo.com qui a mis un 17 sur 20, mais dans l'ensemble, c'est du 5 sur 5, du 9,5 sur 10.
17, c'est pas une mauvaise note.
Non, mais c'est en dessous de ces normes, je veux dire, c'est la note la plus basse apparemment.
Je vois bien.
Voilà. Mais dans l'ensemble, apparemment, ce Forza 3 est une tuerie. Alors, est-ce que c'est le genre de jeu vous que vous jouez? Est-ce que vous aimez la série des Forza? Est-ce que vous comprenez ce succès? Est-ce que face à GTA qui arrive maintenant au début d'année prochaine, je crois qu'elle a été repoussée si je me trompe pas.
Tu veux dire
Gran Turismo,
je me suis trompé. Oui, j'ai dit GTA, pardon. Gran Turismo.
Il va falloir attendre les notes de Gran Turismo pour pouvoir comparer les deux bêtes, mais
ouais, à mon avis, ouais, je sais pas.
Moi, je t'avouerais que Forza, moi je suis pas pas très jeu de bagnole. La seule chose que j'ai vraiment fait sur Forza 2 et où je me suis vraiment éclaté, en fait, c'est personnaliser mes voitures, faire du custom à fond.
Tu aimes le tuning?
Non, mais faut savoir que sur Forza, t'as un outil de personnalisation super poussé.
Ouais.
Il y a des mecs qui s'amusent carrément à refaire des scènes de films sur leur bagnole parce que tu avec des formes géométriques, tu peux vraiment faire des trucs de malade, quoi. Et je crois que c'est encore plus poussé dans Forza 3, donc tant mieux.
Gogopex, t'avais essayé la démo. Vous pouvez d'ailleurs tous essayer la démo, hein. Moi,
oui,
je l'ai fait.
Ouais, moi, je suis pas trop jeu de voiture. C'est même pas du tout mon truc. Je suis pas très bon d'habitude. Et franchement, j'avais essayé la démo et j'ai trouvé ça très, 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 très simple. Sans aide, hein. Donc, j'ai commencé avec des aides. Je crois que c'était le niveau difficile, donc l'avant-dernier niveau de difficulté. J'ai trouvé ça facile. J'ai augmenté le niveau de difficulté. J'ai pris la dernière classe de voiture, donc la plus rapide. Et j'ai fait 5-6 courses, la plus mauvaise course que j'ai faite, j'ai dû arriver deuxième, troisième, une fois, et sinon c'était tout le temps premier, coup sur coup, avec 3 ou 4 secondes d'avance. Alors peut-être que j'ai un talent inné pour Forza Motorsport. Dans ce cas-là, ben, c'est parti, je fais de l'e-sport et tout, et non, dans 2 ans, je suis...
Ah, tu dois avoir un talent inné, parce que moi c'est tout droit, gravier, mur. Hein.
Ah ouais,
ouais carrément,
ah
ouais, ouais, pareil. Je suis d'accord, ouais, pareil.
Mais écoutez, je vais me renseigner, ben, si ça se trouve, j'ai un talent.
Ce qui est certain, c'est que la prise en main est très bonne. Et effectivement, c'est une simulation, donc on peut pas faire n'importe quoi sur le circuit, mais la prise en main est exceptionnelle. C'est vrai que avec un peu d'entraînement, on arrive très vite à faire des tours. Donc de ce côté-là, Forza est plutôt agréable.
Et même sans attendre Gran Turismo 5, de toute façon, il s'agira quoi qu'il arrive d'un très bon jeu de voiture. Donc pourquoi bouder son plaisir,
c'est
et
clair,
puis, faire un embargo jusqu'à la sortie de Gran Turismo 5. Ceux qui ont que la PS3 prendront Gran Turismo 5. Ceux qui ont que la Xbox, ils prendront Forza 3. Et ceux qui ont les deux, eh ben, ils peuvent prendre les deux.
Voilà, ouais, carrément.
Par
tout
contre,
les sorties sont décalées.
On parlait de Gran Turismo, mais face à lui, Forza a quand même du mal à se faire un nom. Quand on parle de simulation de voiture, on est quand même Gran Turismo avant tout.
Ah, mais c'est quel épisode de Gran Turismo? C'est le 5,
je crois que ça avait quand même un petit peu sur son prestige.
Forcément, c'est sûr.
C'est Gran Turismo au début, quoi. Et d'après les tests, en plus, ils ont tendance à dire que finalement, comme disait Jarel, c'est plutôt des jeux qui sont complémentaires, parce que les gameplays sont pas tout à fait les mêmes.
Et puis niveau graphique, c'est assez kiff-kiff, enfin, c'est pas... Il n'y a pas de révolution ni d'un côté ni de l'autre.
Je suis pas non plus un spécialiste.
Très franchement, Gran Turismo 5 est vachement plus haut que Forza Motorsport 3 pour le peu de trucs que j'en ai vu. Hein, j'ai pas vu.
Mais attends, combien de temps il a mis à développer contrairement à Forza
c'est
Motorsport
clair,
3
par rapport
déjà
à... Ouais.
Justement, je trouve ça assez étonnant parce que vu le temps qu'ils ont mis à développer, je trouve pas la claque si impressionnante. Ça tourne toujours. Les deux tournent à 60 FPS et les deux sont magnifiques. Je vois pas le.
Et d'ailleurs, il y aura le premier pack téléchargeable de Forza Motorsport 3 sera gratuit.
Mais il sort le jour de la sortie, donc c'est là, ouais. c'est là actuellement. Je pense qu'on, oui, effectivement, vous vous connectez normalement dans la boîte, vous avez un ticket, en tout cas quelque chose, un code qui vous permet de télécharger le premier pack totalement gratuit. C'est un peu con en même temps parce qu'ils auraient pu inclure le contenu du pack directement dans le jeu. Enfin, à ce moment-là, tu vois.
C'est un peu bizarre, quoi. Ça permet peut-être de recenser combien de personnes jouent au jeu.
Bah, à partir du moment où tu l'achètes, de toute façon, oui, ouais, sur le live, oui, à la limite. Ouais, ouais.
Oui, c'est réservé au compte Gold, peut-être.
En sachant qu'en plus, le jeu tient sur 2 DVD.
Ah bah si, non, et tout simplement, oui, c'est une promotion pour le Xbox Live, puisque Forza, c'est édité par Microsoft. Hein, donc,
ah ouais, donc c'est peut-être pour pousser les gens à se créer un compte
Exactement.
Gold. D'accord, on a trouvé. On a trouvé le pourquoi du comment. Très bien, on passe à vendredi, donc aujourd'hui, et voilà, on est revenu dans le temps à aujourd'hui. C'était ce matin, on apprenait que Halo était déjà planifié, enfin en tout cas, la licence, la franchise avait déjà son avenir planifié pour presque 6 ans.
Halo, ou plus généralement la licence Halo, Frank O'Connor, directeur créatif de la structure interne de Microsoft en charge de la licence en question, vient de dévoiler que l'avenir de la franchise était déjà planifié pour les 6 ans à venir.
La planification n'étonne pas, vu qu'il y a encore eu de 2,5 millions non, de ventes de Halo au DST. Tant que ça marche, tant que ça rapporte autant d'argent, je vois pas pourquoi il s'arrêterait. Après, je suis contre l'utilisation forcée des licences. À un moment, j'aime bien quand ça s'arrête quand même.
Ouais, en même temps, l'univers d'Halo est sans comparaison. Il n'y a pas d'autres jeux qui proposent réellement ça. Finalement, Halo DST, on y joue. On prend plaisir à y jouer. Il est plutôt pas mal.
Ah, c'est sûr qu'il est très réussi, hein.
Moi, je l'aime bien.
Il n'y a rien à dire, hein.
Ouais, ouais.
Surtout le multijoueur.
Voilà.
Ouais, et c'est clair.
Et donc,
c'est mon avis. Moi, je suis beaucoup plus marré sur effectivement, le fameux mode baptême de feu. Le solo, moi, personnellement, je me suis fait chier.
Bah, disons que là, moi, j'attends un prochain Halo pour voir si le solo m'intéressera. Donc,
il y aura Halo Reach.
Voilà, Reach. Mais franchement, Moi, je trouve que s'il se passe rien, donc dans le prochain Solo, bah c'est un univers vide, quoi.
Je trouve pas si vide que ça.
Si on s'intéresse aux graphiques nouvelles, etc. Là, évidemment, il y a histoire de creuser. Mais
Justement, pour parler de ces 6 années qui vont venir, en fait, il y a pas seulement les jeux. Effectivement, il y a des jeux de prévu. J'ai pas forcément les détails, mais il y a aussi tous les comics. Il y a bien
les
entendu
animés. Les animés plutôt.
Ouais.
Les animés.
Oui, Halo Legends qui a été annoncé il y a depuis.
C'est l'équivalent d'Animatrix.
Voilà.
Et pour Halo.
On va voir ce que ça va donner, hein.
Ouais, mais je pense que ça va être énorme, puisque de toute façon, c'est que des grands noms de l'animation japonaise qui sont sur le coup. Donc, ça va être, c'est genre les mecs de Ghost in the Shell, les mecs d'Appleseed, enfin, voilà.
Il y a
du monde, hein.
En tout cas, c'est une licence qui mérite quand même d'être exploitée, surexploitée, même parce que, qu'on le veuille ou non, l'univers est intéressant, il est simple, et en même temps, il est, moi, je trouve assez fort, quoi, les créatures, les personnages ont...
C'est simple, t'as un gentil, des méchants, tout le monde est charismatique, c'est coloré, c'est vivant, nerveux. Voilà, c'est fait pour réussir, quoi.
Ah, y a de l'humour, un peu.
Oui, les grunts.
Ils sont plutôt drôles.
Les grunts, c'est quand même une bestiole que tu peux pas enlever d'Halo, quoi.
Au secours, il m'encercle.
Tirez-vous ! Le chef est mort, on va tous mourir.
Ça me fait beaucoup penser aux Worms, en fait.
Ouais, voilà. Tout à fait, il y a un peu de ça, ouais.
Il n'en demeure pas moins très, très chiant, en fait, à un certain moment du jeu.
Ah, surtout,
quand ils se lâchent sur les grenades, ouais.
En mode baptême de feu, quand ils sont, quand il y a 15 kamikazes qui te courent dessus.
Ah oui, mais ça n'existait pas, ça, avant, il me semble.
Si, dans Halo 2.
Halo 3, oui.
3, oui.
Il me semble pas que c'était le cas sur Halo 3, mais.
Si, sur Halo 3, oui.
Au moins, ils claquaient deux grenades entre elles, ils se les collaient dessus et ils fonçaient sur toi.
Voilà.
Ouais,
ils gardaient dans la main et ils couraient vers toi.
Enfin, voilà, une semaine, somme toute, assez calme, finalement, avec quelques news, une petite sélection là, faite comme ça, mais est-ce que vous avez peut-être d'autres éléments sur lesquels vous voudriez revenir plus particulièrement cette semaine? Des choses qui vous ont marqué, je sais pas, n'importe quoi.
Moi, je reviendrai peut-être aussi sur le patch de la version Xbox de Risen qui était sortie, qui a subi un petit peu les foudres des joueurs parce qu'elle était quand même beaucoup plus moche que la version PC, et l'éditeur a pris le soin de lancer un communiqué comme quoi il y aurait des patchs qui seraient disponibles vers mi-octobre pour le premier, plus tard pour le second, pour améliorer le rendu graphique.
Donc la végétation, voilà. Le faciès du personnage, si je me
et
trompe
les,
pas.
Les textures, enfin un petit peu tout, le réglage du gamma, de la luminosité. Et donc ça prouve, parce qu'il y a eu des rumeurs sur la version Xbox qui devait être soi-disant repoussée par rapport à la sortie PC. Cela n'a pas été le cas. On avait été ravis à l'époque de l'apprendre, mais en fait on voit maintenant que la version Xbox était clairement pas finie.
Tant que je te tiens, Jarel, un peu d'actu sur Gameplay List, peut-être. Les derniers articles.
Alors, vu qu'on est tombé sur une semaine qui était semaine maladie chez Gameplaylist.
Ah bah chez Game Radio aussi.
Moi et tous mes collègues. Alors l'actu se résume à un article sur Beyond the Frontier, le premier X, qui est un jeu le digne successeur de la série des Elite, qui peut-être parlera aux plus vieux d'entre vous, et avec
David Braben, qui l'avait développé, je crois.
À venir découvrir ou redécouvrir sur Gameplaylist.fr toute façon.
Et son compositeur, donc Thomas Peterson.
Ok, très bien, Jarel. Je voulais revenir aussi sur une actu dont je voulais parler avec toi, Jarel. Je sais pas si tu te souviens de notre et Giant, si vous vous souvenez, dans notre dernier Left 4 Dead, là, notre Game Radio Online, on s'est baladé un moment chacun avec un jerrycan d'essence dans la partie. Je sais pas si vous vous souvenez de ce moment particulièrement intense.
Tout à fait.
Voilà.
Je suis bien.
Et ben toi qui étais en demande de nouveaux modes de jeu un petit peu originaux, Giant, sache que dans Left 4 Dead 2, il va falloir justement récupérer sur la map des jerrycans et les ramener à un endroit donné en un temps minimum. Limité. C'est un nouveau mode de jeu dont j'ai oublié le nom. Donc tu vois, on l'avait presque inventé dans notre dernière partie.
Et dans l'équipe adverse sera composée de 5 joueurs qui jouent des zombies.
T'es déjà présent dans le mode versus.
C'est le mode versus.
Voilà, mais là c'est une espèce de capture the flag un peu amélioré avec des jerrycans à récupérer, à ramener à un endroit de la carte.
Ça peut être sympa.
Ça peut être sympa. Effectivement.
GoGoPex, je te laisse la parole. Tu voulais nous.
Oui, alors moi, l'actu, c'est toute petite, mais c'est juste la sortie de Scribble Notes le 8 octobre. Et ben voilà, on n'en a pas parlé, on n'a rien fait, pas de microtest et tout, mais il faut en parler parce que.
Donc, vas-y, parle-en justement. Scribble Notes, c'est sur DS.
Scribble Notes, oui, c'est un jeu DS. Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Le but du jeu.
Le concept du jeu.
C'est un jeu de plateforme aventure, en fait. C'est un jeu de plateforme aventure qui permet, en gros, ça place l'utilisateur en... tu écris n'importe quoi sur ta DS, par exemple, je sais pas moi, casserole, enceinte, micro, tant que c'est un objet physique, que c'est pas copyrighté, que c'est pas vulgaire et que ça existe, que c'est qu'on peut le toucher, quoi. On peut écrire n'importe quoi et en fait avec ces objets on doit résoudre des énigmes.
Alors ce qu'il faut expliquer c'est que voilà, ce qu'il faut expliquer c'est par exemple tu écris casserole, le logiciel qui est voilà, le jeu,
une casserole apparaît.
Lui sait ce que c'est, voilà, il y a tout un dictionnaire à l'intérieur qui est capable de traduire entre voilà, gros ce que tu écris.
Ouais, ouais. Voilà, exactement. Et en fait donc plusieurs interactions sont possibles avec chacun des objets et une casserole peut par exemple servir à frapper quelqu'un, à bah faire cuire un œuf, à faire rebondir une balle de baseball. Enfin, ça peut servir à beaucoup de choses. Une casserole, ça peut se placer dans un sac, ça peut s'accrocher avec une corde. Une corde, on peut la tenir et partir en jetpack avec. Enfin,
voilà. En tout cas, ça fait effectivement partie des gros jeux de la fin de l'année sur DS.
C'est une grosse sortie sur DS et oui, surtout en plus de ça, il est très très réussi. Donc
très bien.
Donc,
voilà. T'as bien fait de vouloir nous en reparler, Giant.
Puisqu'on parle de la DS, moi justement, j'ai essayé Metropolis Crime. Un jeu français d'enquête en fait, un petit peu. Je précise français parce qu'en fait quand on regarde le look, il fait très manga, on croirait vraiment un jeu japonais. Mais c'est un studio français, donc j'ai malheureusement oublié le nom. Et bon là, je l'ai vraiment essayé un tout petit peu hier seulement, donc je peux pas encore trop vous en parler, mais j'ai trouvé très sympa l'interface, la façon de mener des enquêtes. C'est un mélange entre un jeu d'enquête classique, genre expert, avec le petit côté investigation, interrogatoire qu'on pouvait avoir dans Phoenix Wright. Je sais pas si vous vous rappelez, jeu d'avocat où on criait objection. Mmh. Et voilà, donc ça m'a l'air très prometteur. Moi, j'ai trouvé ça assez sympa.
Une fois n'est pas coutume, voyez, on vous parle de la DS à nouveau et deux bons jeux à essayer sur ce support-là. Peut-être que Maxou aussi a peut-être un truc sur lequel il devrait revenir. Plus particulièrement.
J'en ai même deux, mais.
Alors, mon émission j'ai... versus. Non, pardon.
Exactement. Non, je vais commencer par tout simplement la démo de Bayonetta, qui certes n'est pas sortie sur Xbox, mais bon, je ne suis pas chauvin. Non, mais voilà, la démo de Bayonetta, qui est vraiment un excellent jeu que j'attends pour ma part avec beaucoup d'impatience, avec un gameplay de folie, à la fois simple et exigeant, et qui est avec. Donc, derrière ce jeu, c'est le créateur de Devil May Cry, donc ça sent le gros jeu, quoi.
Ok.
Et pour l'avoir, l'avoir testé sur PS3, c'est vrai que ça va être un très très grand jeu. Vraiment un très grand jeu.
Moi, je vous parle un peu de l'actu Game Radio. Donc, je vous le rappelle, Versus qui devra arriver dans les jours qui viennent. Allez, on va en dire un peu plus. C'est un jeu. Voilà. En fait, c'est un jeu. On va pas en dire plus que ça. Entre deux équipes.
Gus. Ouais. Je crois que tu as oublié Nico.
Ah oui, pardon. Nico, pardon. Est-ce que toi, il y a cette semaine quelque chose sur lequel tu voulais revenir? Si, peut-être qu'on peut annoncer qu'il n'y a pas eu de Game Movie cette semaine et que ce sera là mardi prochain.
Mardi prochain, voilà. Normalement. Si tout se passe bien. Si je retrouve Internet aussi, d'ailleurs. Si je veux pas squatter chez ma voisine toute la journée.
Oh,
mais,
oui.
Non, mais moi, c'est la vidéo de Modern Warfare 2. La dernière vidéo qui est sortie lundi, je crois, où à la fin on voit Washington en feu, donc ça laisse présager beaucoup d'environnements différents entre la glace, l'eau, Washington et
les
déserts et le feu, non.
Ouais, très bien, ok. Autre info, on est en train de réfléchir à quelque chose d'un petit peu nouveau sur Game Radio, alors que le site est... Enfin, cette version du site, parce qu'on pense déjà à une nouvelle version, n'est-ce pas, Gogopex?
Oui, j'avoue.
C'est un grand malade, il a déjà le cerveau qui bouillonne sur une V3, mais bon, on en parlera plus tard. On réfléchit peut-être à la possibilité d'accueillir, on va dire, des podcasts de la communauté Game Radio, c'est-à-dire vos podcasts. Mais enfin bon, j'en dis pas plus, c'est à l'état de projet actuellement. Donc surveillez Game Radio, peut-être que prochainement vous pourrez plus concrètement encore participer à l'aventure. C'est en réflexion actuellement. Voilà pour les news de Game Radio. Bah, je crois qu'on va en rester là pour aujourd'hui. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, vendredi prochain, pour une nouvelle émission de fin de semaine. Donc toujours dans cet état d'esprit un petit peu surprenant, un petit peu désordonné, un peu étrange, mais toujours sympathique, avant le week-end. À la semaine prochaine, à très bientôt.
Ciao.
Bye.
Salut.
Bye.
Okay, hey, my name is Boxy. Most of you know me as...
Voilà, il fallait que je te fasse.
Vous êtes des gros fous, hein.
Ça me...
Non mais, et Gogopex, faut que tu nous présentes un podcast avec cette voix.
Game Radio.